Bleu RCFM.
France Bleu.
Yeah.
Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top.
On est hébété par un traumatisme, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait rien, on reste hébété. Et si on se débat pour se remettre en vie, c'est le processus de résilience. Donc la définition, c'est reprendre un autre type de développement après une agonie psychologique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple.
Ce qui caractérise les événements qui se passent actuellement en Méditerranée et dans le monde entier, mais surtout flagrant en Méditerranée, sont récurrents. C'est-à-dire que l'idée que je propose, c'est que les folies meurtrières existent de manière récurrente. Il y a très peu de malades mentaux parmi les terroristes. Il y en a extrêmement peu.
La Méditerranée est le centre de gravité de tous les problèmes du monde. Et donc les contradictions européennes, arabes, africaines et asiatiques se retrouvent au centre de gravité qu'est la Méditerranée.
Et on voit que beaucoup d'enfants bien élevés par des gentils parents chrétiens et musulmans, qui sont bien élevés, stupeur, tragédie familiale, les enfants s'engagent pour une cause qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent encore moins bien l'islam que moi, qui ne connais pas grand-chose. Et ils sont escroqués.
Si un écrivain passait son temps à énumérer des faits, il ne serait pas écrivain. On mourrait d'ennui. Pour qu'on l'appelle écrivain, il faut qu'il nous surprenne. C'est pour ça que les voyous littéraires sont des prétextes à la littérature.
Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans votre émission Toc Toc. La voix que vous avez entendue à plusieurs reprises est celle du neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste français Boris Cyrulnik. Bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Alors, je vous remercie particulièrement, Boris, puisque à 18h30 précisément, vous êtes l'invité de la troisième saison d'Histoire d'œuvre, un cycle d'interventions d'auteurs initié par Racine de Ciel en partenariat avec le Palais Fèche, Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Vous serez accompagné du journaliste et écrivain José Landigne, qui avait animé le dialogue entre vous, Boris Cyrulnik, et l'écrivain algérien Boualem Sansal, publié sous le titre L'impossible paix en Méditerranée aux éditions de l'Aube. Et d'ailleurs, nous avons entendu la voix de Boualem Sansal. Vos derniers ouvrages, La tentation du bien est beaucoup plus dangereuse que celle du mal, avec Dvetan Torodov, et Psychothérapie de Dieu, et La nuit, j'écrirai des soleils. On a d'ailleurs entendu quelques extraits que vous donniez à la grande librairie à propos de ce livre, et notamment la fameuse définition la plus simple du monde de la résilience. Merci d'être là, c'est un pur plaisir. Je sais que vous avez déjà rencontré des étudiants, des élèves.
Oui, j'ai rencontré, ils étaient mignons comme tout, un peu intimidés, mais moi j'ai été très content.
Et vous n'étiez pas intimidé alors?
Pas du tout, je les ai trouvés très sympas, j'aurais aimé qu'on se dispute un peu, mais ils n'ont pas voulu.
Ils ont travaillé sur l'un de vos textes?
Ils ont travaillé sur un de mes textes, ils ont travaillé sur un texte de Pérec, ils ont été très bien conseillés, ils ont réussi à découvrir le mystère de la disparition, qui a eu le prix Renaudot, et où ce qui a disparu, c'est la voyelle E. Beaucoup d'adultes n'ont pas découvert ce style étrange, et eux, ils ont découvert.
Alors on a demandé à Michael Andréani, qui a un petit souci de réception du son apparemment, car je le vois à travers la caméra, où tout va bien.
Tout va bien, non.
Bonsoir parfait, et merci Marie. D'être avec nous, vous nous accompagnez jusqu'à 18h, Michael. On s'est interrogé, Boris, on a eu envie d'aborder plein de sujets avec vous, mais alors évidemment, on s'est intéressé à un sujet qui nous touche particulièrement les Corses, c'est la langue.
Alors, je voulais commencer d'ailleurs par ces mots qui ne parlent pas tout de suite de la langue, en tout cas, en partie seulement. 3 ans, c'est l'âge où on apprend de manière fulgurante. C'est le moment où nos neurones établissent 200 000 connexions par minute pendant les petites années. On peut apprendre sa langue maternelle en 10 mois, entre le 20e et le 30e mois. Performance intellectuelle que l'on ne pourra plus jamais refaire. Ce discours scientifique, c'est le vôtre, Boris. Vous aviez été interrogé il y a un an de cela sur BFM TV à propos de l'abaissement de l'instruction obligatoire à 3 ans. Et de ce raisonnement, j'ai souhaité retenir vos mots sur la langue maternelle qui m'ont inspiré d'autres pensées, à vrai dire, peut-être un peu plus philosophique, celle qu'avait livrée Hannah Arendt dans un entretien resté gravé dans les mémoires entre la philosophe juive allemande naturaliste américaine et le journaliste Günther Gauss, c'était en 1964. Hannah Arendt, on le rappelle, qui a fui l'Allemagne nazie avant de se réfugier en France et d'émigrer aux États-Unis, répondait à une question sur la nostalgie qu'elle aurait pu avoir de l'Europe d'avant l'époque d'Hitler. Sa réponse, je n'ai pas de nostalgie, qu'est-ce qu'il en reste ? La langue. La langue est très importante pour moi et j'ai toujours consciemment refusé de perdre la langue maternelle. Elle continue, j'ai toujours conservé une certaine distance, aussi bien avec le français, que je parlais très bien à l'époque, qu'avec l'anglais, que j'écris pourtant aujourd'hui. Elle fait également état, dans la suite de cet entretien, de l'effroyable différence, selon elle, entre la langue maternelle et toutes les autres langues. Elle évoque notamment cet assez grand nombre de poèmes en allemand qu'elle connaît par cœur et qui bougent encore dans son esprit, ou encore le fait qu'elle se permette des choses dans cette langue maternelle qu'elle ne se permettrait pas en anglais. Alors, tout cela semble nous renvoyer à la culture, à la mémoire, à l'enfance, ainsi qu'à une langue maternelle qui, si on ne l'a pas oubliée, est celle qui demeure la plus productive, que l'on manie avec davantage d'inventivité et qui fait ce que nous sommes, qui constitue notre identité. Et pour conclure, comme l'expression « la langue fait le peuple » et sans verser dans quelque idéologie que ce soit, à lingua materna, comme on dit chez nous, la langue maternelle est peut-être la dernière chose qui nous reste, à la fois vecteur d'inclusion et de partage, et en même temps d'attachement à un passé qui rassure ou à un ancrage qui transcende inconsciemment notre âme et qui nous aide à avancer vers l'avenir.
Qu'en est-il pour vous, Boris Cyrulnik ? Vous êtes soufflé par cette analyse de la langue. On s'est posé la question, lorsqu'on est un petit garçon, comme vous l'avez été, confié pour être protégé, pour qu'on lui sauve la vie, qu'on lui change son prénom et son nom, que lui reste-t-il de son identité première, de sa langue maternelle, de sa culture ?
Le désir de découvrir ma culture, que je ne connais pas, et mes origines, que je connais mal, et le plaisir de parler une langue maternelle, parce que ce que vous avez dit, c'est étonnant à quel point les gens âgés sont sécurisés quand ils parlent leur langue maternelle. Ils peuvent apprendre d'autres langues, mais cette langue-là, elle est imprégnée dans notre cerveau, et c'est celle qu'on parle le plus spontanément, c'est celle dans laquelle c'est celle qu'on habite le mieux, et c'est celle qui a un pouvoir tranquillisant, un plaisir de parler. Les autres, on peut les parler, mais c'est un travail. Alors que là, ça vient tout seul, on retrouve la langue maternelle.
C'est tout ce qu'il reste, la langue maternelle, quand il n'y a plus rien. Est-ce que c'est un refuge, selon vous ? Est-ce que c'est la possibilité de cette fameuse résilience, de s'attacher à cette langue maternelle ?
Alors,
suite à un traumatisme ?
J'emploierai pas le mot résilience pour parler de la langue maternelle, mais j'emploierai le mot empreinte. C'est-à-dire que c'est la langue qui est la plus profondément imprégnée dans notre cerveau. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent plusieurs langues. Et bien, avec l'âge, quand l'âge frappe ou quand la maladie d'Alzheimer apparaît, ils oublient les langues dans l'ordre inverse de l'apprentissage. Et c'est-à-dire que j'ai eu des patients italiens qui avaient passé leur vie en français et qui ne parlaient plus que la langue italienne, qui était la langue de leurs petites années. Et même parfois, on a des surprises. J'ai eu une patiente qui, avec l'âge, fait un tout petit accident temporal gauche, c'est-à-dire la zone du langage, et elle devient aphasique. Elle récupère sa langue en allemand. Et tout le monde dit, mais c'est incroyable, il n'y avait pas d'allemand. On fait une enquête et on découvre que pendant les petites années, au cours de la troisième année, elle avait une nurse allemande qui ne parlait en allemand qu'avec la petite fille. La petite fille parlait allemand avec sa nurse et parlait français avec ses parents, et ses parents ne le savaient pas. Et c'est après l'accident qu'on a retrouvé cette empreinte profonde de la langue maternelle.
Alors, pas de résilience à propos de la langue, mais plutôt le terme empreinte. En revanche, on peut parler de résilience à propos de la langue lorsqu'on arrange les mots les uns après les autres pour créer un texte et devenir écrivain. Vous le dites notamment dans votre ouvrage que je conseille à tous, La nuit, j'écrirai des soleils, aux éditions Odile Jacob, où vous nous parlez de différents écrivains, Certains ont perdu un membre de leur famille, d'autres ont vécu certains traumatismes, et c'est par l'écriture qu'ils ont pu avancer, faire cette résilience, mais surtout nous apporter, nous lecteurs, du bonheur.
Et oui, c'est le paradoxe des écrivains, c'est que la parole parlée est une interaction. Quand je parle à quelqu'un, sa présence, vous venez de hocher la tête, donc vous participez à mon... Il sourit, donc il participe à mon discours alors qu'il n'a pas dit un mot. S'il avait froncé les sourcils ou s'il m'avait menacé, j'aurais tenu un autre discours. Il est co-auteur de mon discours alors qu'il a été silencieux. Alors que dans la parole écrite, c'est très différent. Dans la parole écrite, l'écrivain plonge en lui pour aller chercher les souvenirs, les mots, les remanier, raturer, recommencer. C'est une élaboration, c'est un travail. Alors que dans la parole parlée, il y a une interaction.
Tous les écrivains sont mythomanes, dans le sens créateur de mythes.
Oui, c'est que mythomane au bon sens du terme, comme vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire c'est pas menteur mythomane. Hein. Le menteur, c'est celui qui cache la vérité pour agir sur le monde mental de l'autre. C'est pas moi qui a volé le chocolat, c'est ma sœur qui me protège. Alors que le mythomane, c'est celui qui va chercher des souvenirs vrais, des morceaux de vérité, des mots, et qui les agence pour en faire un récit qu'il va adresser à quelqu'un. Donc, il fabrique un mythe. Mais le mythe, c'est pas un mensonge. Le mythe, c'est une création. Alors que le mensonge, c'est une protection, c'est un leurre. Alors que le mythe, c'est une belle chimère où je vais choisir des morceaux de vérité pour en faire un récit le plus clair et le plus convaincant possible que je vais adresser à un lecteur imaginaire qui, bien sûr, saura me comprendre à la perfection.
John le Carré ou encore Arthur Rimbaud ou Romain Le Gary, vous en parlez dans cet ouvrage. Est-ce que c'était pas un prétexte aussi pour parler de votre autre passion, la littérature ?
Mais bien sûr. Bien sûr.
Parce qu'il y en a bien. D'autres encore, hein, oui.
Mais bien sûr. C'est-à-dire que je voulais partager quelque chose. Et le plaisir est contagieux. J'éprouvais du plaisir à lire Romain Gary, j'éprouvais un intérêt étonné et intéressé par l'élégance de Jean Genet, alors que sa personnalité était une poubelle. Je dis poubelle parce qu'il le dit lui-même. Hein. Je suis un enfant poubelle, je suis sorti d'une poubelle. Donc, et pourtant, dans cette poubelle, il avait un langage parfait. Le choix des mots, la musique des mots. Alors j'ai été étonné, j'avais envie de partager ça avec quelqu'un et de chercher une explication à la fascination qu'exercent ces écrivains sur moi pour qu'on soit nombreux à la partager.
Eh ben on vous en remercie, Boris Cyrulnik. Est-ce que vous le dites de vous-même que vous êtes un enfant poubelle ?
Je l'ai dit. Je le dis plus maintenant. Hein. Mais je l'ai dit quand j'étais enfant, parce qu'effectivement, je n'avais pas de famille. J'ai été, comme je suis juif, mais je ne savais pas ce que c'était qu'être juif. Je savais que ça condamnait à mort. J'étais dans des institutions où il y avait parfois des gens très généreux, mais il y avait parfois des gens très maltraitants. De toute façon, à cette époque-là, on disait aux éducateurs qui n'existaient pas, le métier d'éducateur n'existait pas, on les appelait les moniteurs. Et on leur disait, il ne faut pas parler aux enfants, il faut les dresser, les garçons. Les filles, on les entrave, et les garçons, on les dresse. Et c'est avec ces beaux principes éducatifs que je me suis senti dans une poubelle. Mais j'en suis sorti maintenant.
Et est-ce que vous pourriez dire que vous étiez un enfant sans famille jusqu'à l'âge de 10 ans, où vous rejoignez cette tante, et qu'ensuite, cette famille, elle a existé ? Où vous êtes senti sans famille, même jusqu'à l'âge adulte ?
Alors, j'étais réellement sans famille. Mais seuls les orphelins ont des parents parfaits. Moi, j'avais une mère toujours jeune et jolie. J'avais un père toujours sécurisant, toujours jamais injuste, jamais irrité. Alors que les enfants qui ont une famille, eh ben, ils ont une mère fatiguée, ils ont un père injuste, ils ont des parents réels. Moi, j'avais des parents de rêve, j'avais des parents parfaits. Donc, je n'avais pas l'impression d'être vraiment orphelin. Et je me rappelle, quand j'étais à Villard-de-Lans, dans un home, le même que celui de Georges Perec, mais après lui. Et lorsque j'étais dans ce home de Villard-de-Lans, il y avait à côté une grande maison avec des orphelins de l'aide sociale à l'enfance. À cette époque-là, on disait l'assistance publique. Et avec des copains du home, on passait devant cette belle maison et on disait les pauvres, ils sont orphelins. Eux, ils étaient orphelins, pas nous.
Vous avez fantasmé vos parents idéaux, et vous avez continué à dire et à écrire à qui voulait bien l'entendre et à voulait bien le lire que le rêve et le fantasme, fait grandir. Il faut rêver absolument pour pouvoir s'en sortir dans cette vie.
Mais bien sûr, quand le réel est insupportable, il y a forcément un moment où on ne supporte pas le réel, parce qu'il y a des pépins, il y a des maladies, il y a des hostilités, il y a des accidents. On ne supporte pas le réel. À ce moment-là, on peut se réfugier dans le rêve. Ce qui compte, c'est de réaliser une partie de ce rêve. Mais moi, j'étais dans un milieu très violent. On voulait ma mort, on avait tué ma famille. J'avais bien conscience qu'on voulait me tuer. J'étais arrêté. J'étais emprisonné. J'avais 6 ans et demi. Donc j'avais bien conscience qu'on voulait me tuer. Mais là, dans la tête, il y avait un espace de rêve et de beauté que personne ne pouvait me prendre. Aucun nazi n'aurait pu prendre le rêve de beauté que j'avais dans la tête. Donc ça m'a rendu complètement psychiatre.
Et vous ne pouvez pas voir le mouvement qu'a fait Boris Cyrulnik avec la main, mais pour dire zinzin, en gros, pour psychiatre. Autre exemple très différent, celui de Romain Gary. J'en parlais avec Thomas Brondini, qui va intervenir un petit peu plus tard en musique avec nous dans cette émission. Lorsque une mère encourage son enfant en lui demandant des exigences folles, mais en lui faisant croire qu'il en est capable, est-ce que ça donne un écrivain comme Romain Gary, forcément?
Alors, pas forcément, c'est pas une méthode éducative. Hein.
Ah mince, j'y croyais beaucoup.
Non, alors
tu es
Romain
le plus beau,
Gary,
tu es le plus fort, ça marche pas forcément.
Ouais. Ben non, pas forcément. D'ailleurs, quand on fait des études sur les enfants maltraités, quand les deux parents sont maltraitants, 90% des enfants sont fracassés. Quand un parent est maltraitant, 60% des enfants sont fracassés parce que l'autre parent peut servir de base de sécurité. Et quand les deux parents sont adorables, eh ben, y a quand même 30% d'enfants qui ont du mal à démarrer dans la vie. Donc c'est pas linéaire. C'est pas parce qu'on est des bons parents que les enfants vont devenir de bons enfants. Et l'inverse aussi d'ailleurs est vrai. Alors pour Romain Gary, il avait une mère exceptionnelle, ou plutôt il la vivait comme une mère exceptionnelle, hyper brillante, hyper présente, et qui disait, quand elle était en Pologne, elle était persécutée par les Polonais, et elle disait, en insultant les Polonais qui l'escroquaient, elle disait, voyez ce fils-là, en désignant Romain Gary, et ben un jour il sera prix Nobel, prix Goncourt, il sera ambassadeur, il sera représentant de la France. Et il l'est devenu, parce qu'il voulait réaliser les désirs de sa mère. Il était seul au monde, prisonnier par l'affection de sa mère. Alors lui, ça l'a sécurisé, ça l'a dynamisé et ça l'a emprisonné.
Dans l'impossible paix en Méditerranée, dialogue que vous avez réalisé avec Boualem Sansal, on parle justement de ces enfants élevés par des parents bons, ou de bons parents, comme vous voulez, et qui, à l'adolescence, avec les différentes pulsions sexuelles ou autres, ont envie de quitter le nid, et peuvent parfois virer et être complètement instrumentalisés, et vous dites même un autre terme, on l'a entendu tout à l'heure, escroqués.
Mais oui, il y a toujours un moment où il faut quitter ses parents. Parce que la fonction de l'adolescence, c'est apparition du désir sexuel, il faut quitter ses parents. Besoin de la fierté de devenir indépendant, il faut quitter ses parents. Si on veut poursuivre son développement, il faut quitter ses parents. Mais ça ne veut pas dire ne plus les aimer. On continue à être attaché, mais il faut devenir autonome et indépendant. Or, quand un enfant a été vulnérabilisé au cours de son développement, il n'a pas la force, il ne sait pas faire l'effort de devenir autonome. Et dans ce cas-là, il se sent prisonnier de sa mère ou de ses parents et il les agresse.
Ce qui, pour les parents, est une souffrance, parce que ils disent, mais après tout ce que j'ai fait pour lui, ce qui est souvent vrai d'ailleurs, je me suis entièrement consacré à mes enfants, et maintenant ils deviennent adolescents, et ils m'insultent, ils m'agressent. Les parents sont profondément blessés, c'est parce qu'il faut que tout le temps qu'il y ait un pouvoir séparateur. La mère, bien sûr, puisque statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes, et il faut aussi... c'est la fonction du père. Le père, on ne sait pas très bien ce que c'est, hein, mais c'est pas forcément l'amant. Le père, c'est quelqu'un qui s'attache à l'enfant et à la mère et ouvre l'esprit de l'enfant. Ça peut donc être un autre homme, ça peut être une femme qui joue le rôle paternel. Mais il faut que l'enfant ouvre son champ de conscience. Et quand on arrive à l'adolescence, eh bien, il faut que cette ouverture continue. Mais là, c'est la culture qui doit inviter, accueillir l'adolescent par le travail. Là, il y a du chômage. Par la culture. Là, il y a des points de culture très forts et d'autres qui s'éteignent ou qu'on paye très cher, comme par exemple les écrans. Par la possibilité de voyager. Et là, la culture, la société, joue le rôle paternel.
Oui, mais lorsque l'enfant, pour revenir donc à cet ouvrage de dialogue L'impossible paix en Méditerranée avec Boulem Sansal, quand l'enfant a été bien éduqué avec des parents, entre guillemets, lambda, normaux, qu'il a été sensibilisé à la culture, pourquoi, à un moment donné, cet enfant devenu adolescent épouse une cause qu'il ne connaît pas, qui peut être...
Mais oui, il y a beaucoup d'enfants chrétiens qui se convertissent et qui partent faire le djihad. C'est parce que notre culture ne propose plus de projet d'existence pour ces adolescents. Donc on les invite à vivre dans l'immanence, la consommation. Ils le font et ils sont malheureux. Arrive un gourou qui leur dit « Mais si tu vas en Syrie, si tu vas en Turquie, on va te payer un voyage et là tu vas voir, toi, ta vie prendra sens. » Ces pauvres gosses, bien élevés, continuent leur développement, ils partent en Turquie et ils se font escroquer par des gourous. Ils connaissent rien à l'islam, et je connais pas grand-chose non plus, hein, mais pour l'instant, je me suis pas fait escroquer. Alors que eux...
Parce que vous êtes loin de l'adolescence.
Ah non, je l'ai pas encore faite. J'ai pas encore fait mon adolescence, mais vous allez voir.
Votre crise. Ça va être quelque chose.
Et donc là encore, notre culture, pour ces jeunes, ne propose plus de projet. Je crois qu'en France, qu'en Corse, je crois que c'est un problème majeur de proposer à un jeune, tu peux rester dans ton pays et là tu vas t'épanouir. C'est un problème majeur en Corse comme dans d'autres pays d'ailleurs.
On écoute Barbara et vous restez notre invité Boris Cyrulnik avant de retrouver le public à 18h30 puisque vous êtes l'invité de la troisième saison d'Histoire d'œuvre, un cycle d'intervention d'auteurs initié par Racine de Ciel en partenariat avec le musée Fesch des Beaux-Arts d'Ajaccio. Et vous avez donc rendez-vous à 18h30, l'entrée est libre.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes, et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen. Que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine.
il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même, à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Boris Cyrulnik est notre invité dans Toc Toc jusqu'à 18h et vous êtes également l'invité de la troisième saison d'Histoire d'œuvre. Rendez-vous au musée Fesch à 18h30. Au cours de cette intervention, vous évoquerez évidemment le concept de résilience, un thème largement présent dans votre dernier roman, La nuit, j'écrirai des soleils, aux éditions Odile Jacob. Permettez-moi, Boris Cyrulnik, de vous présenter Christophe Laurent, qui est notre chroniqueur littéraire dans cette émission. Bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous.
Mon cher Christophe, vous avez choisi, ça va vous intéresser, Boris, enfin j'espère, ou du moins vous ferez semblant, c'est intéressé au dernier ouvrage de Joyce Carol Oates, un livre de martyrs américains, et vous savez combien Joyce Carol Oates s'est intéressée à des thèmes éminemment psychologiques tels que la pédophilie ou encore l'abandon, mais aussi l'enlèvement ou l'adultère. Bref, à travers tous ces romans, Christophe, on peut dire que la psychologie est toujours au cœur de ces romans noirs.
Oui, complètement. C'est une œuvre, parce qu'on peut parler d'une œuvre maintenant, puisqu'elle a une cinquantaine, je crois, de romans à son actif, sur la psychologie et sur la... On pourrait même aller jusqu'à la psychiatrie. Et je suis très heureux d'en parler avec vous, docteur, parce que je sais que vous êtes très attaché à la grossesse, à la gestation, au corps de la femme en général. Et là, c'est un livre. De temps en temps, on tombe sur des grands livres. C'est pas fréquent, il faut le dire. C'est en ce moment, on a un peu de mal. Mais là, on a un livre qui vous bouleverse. C'est un livre quand vous le lisez, vous y repensez même dans vos rêves. Je plaisante pas. C'est un livre très important. Un livre de martyrs américains. C'est vraiment un livre qui ne vous laissera jamais insensible. Je pèse mes mots parce que c'est pas tous les jours je fais des compliments à des romans qui me viennent dans les mains. Mais là, on est dans un roman qui évoque frontalement la question de l'avortement aux États-Unis. Donc depuis 1973, on ne le sait pas forcément, il y a un arrêt qui s'appelle Roe versus Wade. C'est un arrêt qui protège le droit à l'avortement aux États-Unis. Or, un article, par exemple, du quotidien Les Échos hier, raconter que le nombre d'IVG a chuté de 7% entre 2014 et 2017. Alors peut-être que c'est le fait de meilleure contraception, mais toujours est-il qu'il y a de sérieux problèmes. L'Alabama, par exemple, a instauré une loi avec peine de prison pour les médecins avorteurs. Il y a la Géorgie qui limite à 6 semaines le temps pour avorter. Hier ou avant-hier, l'Équateur a refusé, encore une fois, la légalisation de l'avortement. Donc c'est un livre qui est d'actualité, pour le moins. Même si nous, ici, peut-être qu'en France, on n'a pas conscience de ces enjeux de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, toujours est-il que le livre de Joyce Carol Oates, c'est un roman avec deux martyrs. Deux martyrs. Il y a le premier martyr, c'est le médecin avorteur, Gus Voorhees. Alors, je fais une petite parenthèse. C'est une histoire qu'elle a tirée d'un fait divers réel. Donc, il y a un médecin avorteur qui a été assassiné il y a une dizaine d'années aux États-Unis. Enfin, au moins, ça j'en suis sûr. Donc le docteur Gus Veros, il est obstétricien, il travaille dans le Midwest, et un matin où il va à la clinique, comme tous les matins, il se fait assassiner par un évangéliste. Donc ça c'est le premier martyr, c'est donc notre médecin. Le deuxième martyr, c'est justement l'assassin, qui lui est monté au pinacle évidemment par tous les croyants, tous les évangélistes des États-Unis. Lui se constitue immédiatement prisonnier. Il a tué non seulement le médecin avorteur, mais aussi son garde du corps. Il se constitue prisonnier. Il dit clairement, c'était la volonté de Jésus. Jésus a voulu que j'arrête ce massacre des innocents. Le terme qu'ils utilisent, c'est le massacre des innocents. Voilà. Donc, Joyce Carol Oates a cette intelligence, cette finesse je vais pas faire le, je vais pas faire le portrait de Joyce Carol Oates. Maintenant, elle a 81 ans, on la connaît, on sait à quel point elle a ce recul sur même les monstres. On sait qu'elle c'est pas quelqu'un qui juge, elle donne des éléments, elle a cette finesse tout simplement qui est très rare dans la littérature. Mais ce qu'elle nous montre, c'est que ce charpentier qui a tué le docteur, il a ses raisons. Et ses raisons, on peut les entendre, tout simplement. Elle n'essaye pas d'opposer une Amérique, on va dire, évoluée, l'Amérique peut-être de la côte Est, l'Amérique urbaine, à ce Midwest, peut-être un peu plus rural, un peu moins éduqué. Elle ne fait pas ça. Simplement, elle explique. Elle explique, voilà le chemin du docteur, voilà sa famille, voilà le chemin du charpentier, voilà sa famille. Et elle fait ainsi des allers-retours. C'est un livre quand même qui dure 860 pages. Vous ne vous ennuyez pas un seul instant. Il y a des scènes absolument époustouflantes.
Christophe Laurent, on note quand même que l'assassin est charpentier.
Oui, ce n'est pas un hasard.
Un hasard comme Joseph, oui.
De toute façon, ce qui est intéressant dans le discours, c'est pas un discours, dans le roman tout simplement de Joyce Carol Oates, c'est qu'elle nous dit que le fondamentalisme c'est pas seulement islamiste. Là on est face à un fondamentalisme chrétien, c'est-à-dire que ces gens-là aux États-Unis publient des listes de médecins avorteurs. Clairement, il y a des associations, les soldats de Dieu, les soldats de Jésus, peu importe comment ils s'appellent, qui appellent à l'agression physique de ces médecins avorteurs. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils appellent à ces agressions et il y a un médecin avorteur qui se fait assassiner en démocratie. Donc, il y a d'énormes questions qui sont posées. Après, il y a le talent de Joyce Carol Oates qui vous emporte. Et il y a notamment, parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas blanc ou noir, donc je ne vais pas tout vous révéler. Mais il y a une scène dans une prison, une scène donc d'exécution, parce que ça se passe dans l'Ohio encore la peine capitale. Il y a une scène d'injection létale, et c'est absolument abominable. Elle vous raconte ça, et c'est un plaidoyer contre la peine de mort qui est formidable. Et en même temps, elle nous interpelle. Ce charpentier, cet assassin gratuit, est-ce que il doit mourir ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer sur la chaise électrique ou autre?
Et puis surtout, ce qui nous intéresse ici et que Boris Cyrulnik a beaucoup abordé, c'est est-ce que les hommes et les femmes, souvent les hommes, qui passent à l'acte, c'est-à-dire de la folie meurtrière, sont-ils forcément des fous psychiatriques? Et vous répondez, Boris Cyrulnik, qu'il y a plusieurs axes. Et finalement, c'est une minorité, les fous psychiatriques.
Oui, tout à fait. Si on devait protéger les fous, il faudrait enfermer les gens normaux, parce qu'il y a beaucoup plus d'assassinats parmi les gens normaux que parmi les fous. Mais ce que vous dites là est terrible et passionnant. C'est en 1905, au moment de la loi de la séparation de l'Église et de l'État, le terrorisme venait des chrétiens. Il y avait des attentats publics, c'était des terroristes qui s'engageaient, et c'était un énorme problème dont on parle plus aujourd'hui, mais les terroristes à cette époque-là, c'était pas les musulmans. Je viens de dire, j'aurais dû dire les djihadistes, parce que ça fait beaucoup de tort aux musulmans. Mais à cette époque-là, c'était les chrétiens qui faisaient des attentats, et ça faisait beaucoup de tort à certains chrétiens. Donc cet extrémisme-là, c'est l'extrémisme de la passion. Et la passion, ça nous frappe, on ne sait pas pourquoi certains parmi nous deviennent atteints par la passion, que ce soit la passion amoureuse ou la passion criminelle. D'ailleurs, quand on est amoureux passionnément, si l'autre nous est enlevé, on pense à tuer celui qui nous l'enlève ou celle qui est partie. Donc cette passion-là peut facilement devenir meurtrière. Ça n'a rien à voir avec la religion, ça a à voir avec l'aptitude à la passion. Et la passion, alors l'amour est un peu comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on tombe amoureux d'une femme, d'un homme, c'est le plus joli moment pathologique d'un être humain normal. C'est-à-dire que on délire. Quand j'avais 16 ans, j'étais amoureux de Marilyn Monroe. Elle m'a jamais téléphoné, jamais une fleur, rien. Si c'est pas délirant, ça. Et
Donc, et pourtant, je pense que j'étais à peu près équilibré. Je pense que vous aussi, vous avez des amours comme ça.
Ça m'est arrivé.
Donc, ça fait partie de la condition humaine. On est capable d'aimer passionnément, ce qui est merveilleux, et en cas de malheur, en cas de frustration, ce qui peut devenir dangereux. Mmh.
Alors, l'objet de la passion ou l'objet de l'obsession, pourrions-nous dire, peut changer. On sait très bien que Hitler, par exemple, avant les Juifs, eh bien, c'était les catholiques qui l'embêtaient.
Mais absolument. Jan Kershaw, qui est un des meilleurs spécialistes de la biographie d'Hitler, puisque ça a été le premier historien autorisé à ouvrir les archives de Berlin, je l'ai rencontré à Paris, et Jan Kershaw disait qu'il a des textes, des lettres, disant que d'abord, Hitler voulait faire la peau des catholiques. Et puis,
ça ne faisait pas son affaire, en réalité. Il s'en est rendu compte.
Voilà, c'est ça. Mm. Et ensuite, quand il a perdu la guerre de 14-18, quand il a perdu, plus que les Allemands, c'est lui qui avait perdu la guerre, aussitôt, comme il pensait que les Juifs étaient un peuple admirable, il l'a pensé. Comme il pensait que les Juifs étaient un peuple admirable qui avait su traverser les siècles et surmonter des tas d'épreuves, il a pensé que c'était des gens supérieurs. Donc, puisque l'Allemagne avait perdu la guerre, c'était donc forcément de la faute des Juifs, puisqu'ils étaient des hommes supérieurs et que l'Allemagne avait perdu la guerre. Et à ce moment-là, il a complètement viré et il s'est mis à haïr les Juifs de manière instantanée, une passionnée. Et la passion, c'est contagieux. C'est très contagieux. L'amour est contagieux, la gaieté est contagieuse et la haine aussi est contagieuse.
Merci Christophe Laurent pour cette présentation exemplaire qui nous a donné très envie donc de lire cet ouvrage de Joyce Carol Oates qui s'intitule Un livre de martyrs américains. Merci infiniment. Nous allons chanter. Eh oui Boris, je vais vous faire chanter. Je suis capable de ça. Non, pas moi, mais Thomas Brondini. Bonsoir Thomas.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Eh oui, on vous distrait avant votre conférence. C'est important, comme ça vous allez arriver bien détendu au musée Fesch. Thomas, tous les soirs, enfin pas tous, mais quelques soirs dans la semaine, vous venez dans Toc Toc et vous proposez ce qu'on appelle un mash-up. Si ça, c'est pas zinzin et complètement psychiatrique. Le principe du mash-up, Boris Cyrulnik, Thomas prend une musique et il prend un texte qui n'appartient pas à cette musique. Il mélange le tout et nous devons de trouver et la musique et le texte.
Alors, bonsoir à tous. Bien sûr, je suis un peu zinzin. Il faut être zinzin pour faire ce genre de choses.
Il faut être plusieurs dans sa tête.
Alors, voilà mon premier essai. Oh, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le bras, j'ai peur que tu aies froid.
J'ai le texte.
Comme d'habitude, il faut les deux. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi. Comme d'habitude.
J'ai la musique. J'ai la musique. Nars Barclay, la musique. Claude François, le texte, comme d'habitude.
Bien joué, Marie, un point.
Bravo. Mickaël, je vous écrase ce soir. Vous voyez, Boris, nous jouons tous les soirs.
Vous m'avez dit, on a eu des consignes, vous m'avez dit hier, de ne pas jouer, de laisser répondre les autres. Je me plie à vos consignes religieusement.
Ah, vous les aviez tous les deux ?
Non.
Mickaël, vous aviez les deux ?
Honnêtement, non.
Ah, bon.
Quand même. Enfin, oui, les paroles, oui, quand
Allez,
même.
Allez, un point pour moi. Christophe Laurent, vous pouvez jouer. Boris également, vous aviez peut-être Claude François, le texte, ou même pas.
Mais non.
Vous êtes concentré sur votre conférence.
Non, c'est pas ça, c'est que la première fois, c'est toujours étrange, ce mélange. Allez, deuxième extrait.
Ah, très bien. Je me souviens de ces matins d'hiver, quand la nuit sombre et glacée.
J'ai la musique.
À côté de mon frère, sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis, le sommeil grelottait sous les assauts du vent. Refrain. Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer.
Mickaël. Moi j'ai la musique, Cabrel.
Oui, moi aussi j'ai la musique. Et j'ai
en fait, je dois vous dire, je complique un peu. Plus je vais, j'essaie de compliquer un peu parce que dans les premiers.
Mais vous nous perturbez.
C'était trop facile. Parce que vous trouviez trop facilement.
Alors, donc Cabrel, la musique.
Oui.
C'était,
et donc
c'était quoi? C'était les murs de poussière ou pas du tout.
C'était encore et encore.
Encore et encore.
Voilà, très bien.
Et le texte.
Gérard Lenormand.
Exactement. Oh, les matins d'hiver. Bien.
Matins d'hiver, Gérard Lenormand. Bon, égalité alors.
Bien joué.
Un point chacun.
Qui vous a soufflé? Vous ne la connaissiez pas il y a 10 secondes.
Alors.
C'est Dominique Pedouzi Mariani qui est dans le coin. Et qui joue avec nous.
C'est pas grave, c'est collégial, tant mieux.
On l'embrasse très fort. Allez, un point Mika, un point Marie. Quant à Christophe Laurent, alors, qui n'écoute que du hard rock, il est inexistant. Quant à vous, Boris, franchement, je suis extrêmement déçu.
Non, mais parce que j'ai fait quand même pas mal de grands écarts, c'est pour
bon,
ça.
Allez, troisième extrait et dernier.
Attention, il y a un piège.
Brassens?
Ah. Oui. Voilà, tu es tombé dans le piège, Marie. J'en étais sûr. Il n'y a pas de saison pour que vive la musique au fond. Pas de saison pour que vive le son. En marchant, tu donnes une cadence à tes pas.
Ouh,
tu sens
ça
la
y est, j'ai tout.
Au bout de tes doigts.
Mes frères m'ont oublié, je suis parti,
tombé, je suis malade. Si vous me ramassez point, je vais mourir, quelle valeur.
Oh, quelle merveille cette chanson.
Eh oui, mais alors c'était quoi le texte?
Le texte, c'était des mondes minuit.
Non, nuit de folie.
Nuit de folie.
Nuit de folie, tenue de soirée. Voilà.
Et la musique?
C'était Le Petit Bonheur.
Le Petit Bonheur de Félix Leclerc. Félix Leclerc, j'adore cette chanson. Voilà. Est-ce que vous feriez une chanson pour Boris Cyrulnik parce qu'il va devoir partir?
Oui.
Je crois qu'on vous libère à 17h50, Boris, pour que vous puissiez vous rendre à cette conférence. Boris, vous m'entendez?
J'écoute la musique, oui, je vous entends donc.
Bon, alors, j'espère que vous prenez du plaisir. Thomas va vous chanter une chanson pour vous dire au revoir. On va vous remercier infiniment d'être venu nous voir jusqu'aux locaux d'RCFM à Ajaccio, parce que à 18h30 précise, vous serez donc au musée Fesch pour cette rencontre avec Histoire d'œuvre et Racines de ciel, rencontre littéraire méditerranéenne en partenariat avec le Palais Fesch, musée des Beaux-Arts. Et je vous remercie et je vous dis au revoir Boris Cyrulnik, et je vous dis au revoir en chanson. Au revoir, voilà. Boris.
Au revoir, merci.
Alors la chanson que vous m'avez inspirée, La poursuite de ses rêves à travers la quête de Jacques Brel. Rêver, un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne parle, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes, ces cadavres seraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre, à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Et toi.
Thomas, vous nous chanteriez autre chose, là, si vous le sentez, parce que vous avez le temps et que vous êtes en direct sur les réseaux sociaux et sur
je vais faire ça.
Ma page Facebook.
C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Lorsqu'il m'a vu passer, il s'est mis à crier, monsieur, ramassez-moi. Chez vous, emmenez-moi. Mes frères m'ont oublié. Je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me ramassez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait cette chanson. Mes jours, mes nuits, mes deuils, mes peines, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais des goûts de la recommencer. Lorsqu'il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des scènes, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. C'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli que sifflait ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien failli mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin, ben je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans les pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
Thomas Bronzini, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci. Boris Cyrulnik était notre invité dans Toc Toc ce soir. Il est allé rejoindre le musée Fesch à Ajaccio. Car à 18h30, Michael, hein, il donnera une conférence. Il a déjà rencontré les élèves ce matin qui ont travaillé en amont sur un texte de Pérec et l'un de ses textes. Et c'est à l'initiative de Racines de Ciel, rencontre littéraire méditerranéenne, en partenariat évidemment avec le Palais Fesch, musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Michael Andréani, je vous salue et je vous remercie. Je vous dis à mardi.
Je vous salue, Marie.
Mais qu'il est content. Mais qu'il est bête avant le week-end. Car lundi, vous serez aux côtés de Jean-Pierre Acquayuva que nous allons rejoindre dans un instant. Merci, Thomas Bronzini.
Merci beaucoup.
Quant à vous, je vous dis à mercredi.
À mercredi.
J'ai le calendrier dans la tête désormais. Christophe Laurent.
On se retrouve bientôt.
Mon cher tonton, mon cher amour, on se retrouve demain à 11h pour des livres et des lires avec tous nos coups de cœur, trois en tout. Suivez-nous, notamment sur les réseaux sociaux. Merci à Théo, Tony, qui réalisait cette émission, ainsi que Stéphane, me semble-t-il, Michael.
Stéphane Casalonga-Legrand.
Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'info et avec Jean-Pierre Acquaviva et sa bande.
Say it ain't so, Joe, please. Say
France Bleu RCFM.
MMA, interruption spéciale. Situation tendue à Vesoul.
Non, juste deux associés qui montent une entreprise.
Mais imaginez que l'un décède. Que deviennent ses parts? L'autre va perdre le contrôle de l'entreprise.
Non, avec la formule garantie croisée associée du contrat capital décès MMA, il disposera d'un capital pour acheter les parts du défunt. MMA, zéro tracas.
Et zéro blabla. Envoyez la pub. MMA.
2 mois offerts pour toute adhésion au contrat capital décès MMA jusqu'au 31 octobre 2019. Conditions en agence MMA.